Et nous voici de retour, toujours en direct, depuis le Palais des Sports de Grenoble, où se déroule encore pendant une heure, un petit peu moins d'une heure, le Forum des associations, le gros événement de la rentrée dans le calendrier municipal, et puis également du côté de la Halle Clémenceau, juste à côté, hein, toujours autour de ce parc Paul Mistral. C'est le Forum des Sports qui est entré dans sa dernière heure. Autour des micros, un dernier plateau invité, avant qu'on se dise au revoir tout à l'heure vers 18h, nous avons deux associations, peut-être une troisième qui nous rejoindra, on ne le sait pas encore, c'est la surprise. En attendant, nous avons ici Laura qui représente l'association La Bouture. Bonjour Laura.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Et à tes côtés, Laura, c'est Clément, le président de l'association Coup de Pouce étudiant Grenoble. Bonjour Clément.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Mais c'est avec plaisir. Donc Laura, j'ai pas précisé, administratrice et puis membre, hein, adhérente, bénévole de cette association La Bouture. Donc honneur aux dames, même si on est à une époque de parité, on continue à être galant. Laura, parle-nous de cette association La Bouture qui intervient dans le décrochage scolaire. J'ai oublié de préciser quand même pour nos auditeurs que sur ce plateau, effectivement, on va parler un peu plus d'associations qui s'engagent auprès de la jeunesse, que ce soit les plus jeunes ou les étudiants. On va évoquer tout ça. Donc, La Bouture.
Alors, La Bouture, pour la petite histoire, c'est une association qui est née en 96, donc sur le territoire grenoblois, dont le premier objet était de lutter pour créer un établissement de l'éducation nationale qui accueille des jeunes décrocheurs scolaires. Donc, après 4 ans de lutte, nous avons réussi à créer le CLEPT, Collège Lycée Élitaire pour Tous, qui est un établissement de l'éducation nationale. C'était très important pour nous que ce soit public, pour que l'école soit son propre recours, puisqu'on estime qu'elle a une responsabilité importante dans le décrochage scolaire. Donc, depuis que le CLEPT a été créé en 2000, l'association La Bouture, se concentre sur 3 missions. Le premier, c'est un accueil des jeunes en rupture scolaire pour les accompagner à un raccrochage sans assignation. Donc c'est prendre le temps d'être accueilli à La Bouture en tant que lieu d'écoute pour pouvoir se réconcilier avec son histoire scolaire et s'autoriser des possibles pour s'ouvrir des nouveaux chemins auxquels on n'avait pas encore pensé. On accueille aussi des professionnels et des parents. Les parents, on va dire, on est plutôt autour de pouvoir poser des mots et sortir de l'impuissance et de la culpabilité face au décrochage de ces jeunes. Et puis en direction des professionnels, on accompagne donc des éducateurs, les missions locales, de la PJJ parfois. On répond à des sollicitations pour pouvoir les former sur la question du décrochage scolaire et permettre aussi à ces acteurs de travailler un peu mieux ensemble pour faire un peu mieux avec ces jeunes. La finalité de l'association, c'est d'essayer de changer un peu l'école. Donc on a aussi tout un volet de mobilisation citoyenne, d'interpellation, pour œuvrer pour une école un peu plus émancipatrice.
Est-ce que c'est bien vu, ça, du point de vue de l'éducation nationale? Parce que on sait que ce fameux mammouth qu'évoquait un politicien il y a quelques années, qui a du mal à être dégraissé, qui a du mal à être réformé, est-ce que votre travail, vous arrivez à avoir une coopération du monde de l'éducation?
Alors aujourd'hui c'est un peu c'est compliqué pour deux raisons. C'est compliqué de changer le regard qui pèse sur le décrocheur, c'est-à-dire le fait que ce sont des jeunes qui ne sont pas capables d'apprendre et que c'est eux qui veulent plus de l'école. Donc ça, c'est la première difficulté sur laquelle on œuvre, on lutte pour défendre l'idée que tout petit être est capable d'apprendre et d'y revenir. C'est un peu paradoxal après, les liens qu'on peut avoir avec l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale se nourrit aussi des recherches qui ont été faites, sur le décrochage scolaire ou en sciences de l'éducation. Je pense qu'ils ont déjà lu aussi Pierre Bourdieu. Donc, puis il y a des individus dans l'éducation nationale qui connaissent les mécanismes à l'œuvre du décrochage scolaire. Ce qu'on essaye de défendre très fortement, c'est que c'est bien parce qu'on croit à l'école qu'on la critique. Mais la critiquer reste quelque chose de compliqué et la faire changer aussi.
Bah oui, on le voit régulièrement dans l'actualité. Bon, après, il ne faut pas être totalement pessimiste. Il y a aussi des gens dans l'éducation nationale qui sont convaincus hein, de faire un petit peu évoluer les choses, d'entrer pleinement dans l'école du 21e siècle. Mais bon, voilà, malgré tout. Alors,
je voulais dire que effectivement, enfin, les causes du décrochage, elles sont diverses et c'est pas manque de bonne volonté ou de bienveillance des acteurs ou d'enseignants qui auraient pas envie que tous les jeunes réussissent. Enfin, je pense que c'est dans tous les projets d'établissement et tous les enseignants ont envie que tous les jeunes réussissent. Mais disons que la manière dont les choses fonctionnent, on exige des choses qu'on n'apprend pas à l'école, par exemple être élève, ça s'apprend. Et à l'école, on l'exige sans l'apprendre, et du coup, on reproduit des écarts, entre ceux qui ont les codes, ceux qui les ont pas. Et puis après, c'est un fonctionnement un peu général, j'allais dire. Des solutions, elles sont pas magiques, mais elles sont parfois un peu, dans le travail en équipe, d'en prendre en compte la parole des jeunes dans les établissements. Enfin, il y a plein de choses possibles pour œuvrer à un peu de changement. Ouais.
Revenons sur l'association La Bouture. Concrètement, comment ça fonctionne ?
Alors, on a un fonctionnement qui s'est modifié ces dernières années, puisqu'il y a quelques années, on a eu une grande, grande perte de subventions, un licenciement économique, on avait 3 salariés, on est passé à 0. Et du coup, on a dû renouveler nos forces militantes. Donc, cette crise a permis de transformer nos adhérents en militants bénévoles. Donc, aujourd'hui, on a une salariée à plein temps, qui est dans le secrétariat, gestion, coordination, communication. Et on a des bénévoles qui donc sont formés sur la question du décrochage, etc. et qui interviennent. Les bénévoles, si vous voulez, ils passent au minimum une demi-journée par semaine chacun à l'association. Voilà, on a ce fonctionnement-là pour l'instant.
Et ensuite, comment se font les actions ? Ce sont des sessions de formation. Vous intervenez comment dans les établissements scolaires ou en dehors ? Je ne sais pas.
Alors, pour l'instant, on pourrait produire des offres de formation, mais on est plutôt pour l'instant dans répondre à des demandes. Donc, des demandes qui peuvent être locales, comme venir d'ailleurs. Donc là, par exemple, on a reçu une demande à Gennevilliers pour intervenir, pour accompagner des étudiants qui feraient du tutorat à des jeunes. Donc là, concrètement, on en discute ensemble, on prépare la formation ensemble, avec les bénévoles. Et ensuite, certains y vont.
La demande vient de
l'établissement.
Par exemple, là,
on a des éducs, ou des institutions qui, des fois aussi, nous font. Là, on a la FCPE, par exemple, des parents d'élèves, qui nous ont sollicité pour faire une intervention sur le décrochage scolaire, comment le prévenir et comment agir dessus.
Donc, un gros travail de sensibilisation.
C'est ça.
De la part de cette association La Bouture. Plus de salariés que des bénévoles, vous êtes combien ?
Une salariée à plein temps et on est 7 ou 8 bénévoles à venir toutes les semaines.
D'accord. On va maintenant s'intéresser à l'association de Clément, donc coup de pouce étudiant Grenoble. Donc Clément, président de cette association, vous intervenez sur l'accompagnement scolaire, mais pour les étudiants. Dans l'enseignement supérieur, donc.
Oui, c'est exactement ça. Vous connaissez bien le soutien scolaire. Eh bien, c'est la même chose, mais au niveau universitaire.
Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans le besoin d'un soutien ?
Vous savez que Grenoble, il y a plus de 50 000 étudiants. Comme dans pratiquement toutes les universités françaises, il y a 10 à 15 % d'étudiants étrangers. Et sur 10 étudiants qui rentrent à l'université en licence, il y en aura 3 ou 4 qui ne vont pas avoir leur licence. Donc on a un taux d'échec universitaire qui est ahurissant et qui est dramatique à tous les sens du terme, que ce soit économique ou humain, etc. Et donc l'objet de l'association, c'est de fournir, je dirais, individuellement à des étudiants un soutien dans leur démarche universitaire sous l'angle strictement universitaire. Où est-ce qu'ils ont des difficultés et comment est-ce qu'on peut les aider ? Pratiquement, nous intervenons auprès de 150 étudiants à l'aide d'une centaine de bénévoles sous forme de soutien individualisé de 2 heures chaque semaine. Les étudiants et les bénévoles viennent dans nos locaux qui sont situés place Saint-Bruno, ce qui est relativement facile près de la gare et avec le tram. Et nous avons là une dizaine de petites salles permettant d'être deux ou trois dans la salle, donc régulièrement. Nous avons pour le fonctionnement une personne qui est salariée à mi-temps et bureau et conseil d'administration pour les décisions importantes. Cette salariée, Anne, va recevoir tous les bénévoles pour identifier leurs capacités, leur disponibilité horaire, et elle recevra aussi tous les étudiants, quelles sont leurs demandes, où est-ce qu'ils ont une difficulté et quand est-ce qu'ils peuvent venir, et elle fait l'ajustement entre ces disponibilités de bénévoles et les demandes des étudiants. Partant de là, alors nous couvrons, je dirais, tous les champs de la démarche universitaire, c'est-à-dire, alors le premier point, et c'est le, je dirais, en volume...
Rapprochez-vous bien du micro.
Le premier point, c'est en volume le plus important, c'est le français, à la fois pour que les étudiants étrangers, parce que nous avons, comme je l'ai dit, à peu près 5 ou 6 000 étudiants étrangers à Grenoble, puissent bien comprendre leurs cours, mais c'est le français oral, mais c'est aussi le français écrit. Comment est-ce qu'on écrit un mémoire, un rapport? Les étudiants français, ils ont eu en première et en terminale, avant il y avait les rédactions, puis après il y a eu des divers éléments, ils savent écrire un peu en français. Dans beaucoup de pays étrangers, la même chose n'existe pas. Donc il y a l'apprentissage de l'aide à la relecture du mémoire, dire c'est pas bien comment mieux structurer, comment structurer les phrases, que c'est pas par la répétition qu'on fait une démonstration, mais par des apports, etc. Ça c'est un des champs relativement importants. Et je dirais pour rien que le français courant oral. Eh bien, n'importe quel, je dirais, français qui maîtrise le français peut aider déjà les étudiants, enfin un étudiant ou deux étudiantes, assez facilement. Mais les champs peuvent être aussi très variés. Je pense, par exemple, un étudiant qui me dit, ou une étudiante qui me dit, pour le droit, j'ai ça et ça, mais il y a ce point-là que j'arrive pas à comprendre, où j'aimerais, on va rechercher dans notre réseau d'abord des bénévoles inscrits, puis demander éventuellement à l'extérieur d'autres personnes qui seraient disponibles pour ce genre de situation. Je pense à un étudiant qui avait un problème en hydraulique. J'ai un ami hydraulicien, je l'ai fait rentrer dans l'association comme bénévole. Et il a passé plusieurs mois, 2 heures par semaine, à aider à cet étudiant à comprendre ce qu'il n'avait pas compris. Puis l'idée, c'est vraiment un coup de pouce, lui permettre d'avancer.
Donc ça veut dire qu'au niveau de la centaine de bénévoles qui interviennent pour accompagner des étudiants, c'est qui, ils viennent d'où? Ce sont d'anciens enseignants ou des enseignants qui ont du temps? Parce qu'il faut quand même avoir des compétences pour, je sais pas, si c'est par exemple un étudiant en mathématiques, oui. c'est pas n'importe qui peut l'aider.
Nous avons un spectre très large de bénévoles. Je dis pour l'élément important qui est le français... Je dirais, vous et moi, il n'y a aucun problème pour dire que le chaise, y a une erreur sur l'article.
Il y a des disciplines qui demandent quand même... Il y a des disciplines...
Le français, on est en lien avec le QF, le Centre universitaire d'études du français, pour des professeurs du QF, des retraités professeurs du QF, sont venus former les bénévoles à comment être attentifs à... enseigner le français, enfin aider les étrangers à améliorer leur français dans la compréhension du français langue étrangère ou de l'expression français langue étrangère. Autrement, nous avons effectivement, tous les spectres de la société civile. Donc, il y a d'anciens médecins, il y a des infirmières, des comptables, il y a vraiment tout le spectre possible. Moi, je suis un ancien universitaire, on a pas mal d'anciens universitaires. Au départ, l'association, quand elle a été créée, l'a été par des universitaires qui en ont appelé d'autres amis qui n'étaient pas universitaires. C'est effectivement à partir de ça qu'on va pouvoir travailler, mais ce n'est pas une nécessité.
Donc, que ce soit la bouture ou coup de pouce étudiant, vous êtes clairement un peu dans la même, dans le même petit monde qui est lutter contre une forme de décrochage, hein, décrochage scolaire ou décrochage universitaire. Alors, ça veut dire que les étudiants qui font appel à coup de pouce étudiant, c'est majoritairement des étudiants étrangers ou comment
c'est,
ça se décompose
à plus de presque les trois quarts. Les trois quarts, ce sont des étudiants étrangers.
Ça a un coût. Comment font les étudiants? Ils doivent payer.
Effectivement, on considère que c'est une démarche, enfin fondamentalement bénévole, mais on demande des frais d'inscription qui dépendent du niveau d'études. Ça va de 40 à 70 euros pour l'année. Suivant le niveau premier, deuxième, troisième cycle.
D'accord.
Oui, non, j'allais dire qu'effectivement, on accompagne des jeunes à ne pas décrocher ou qui ont décroché, mais la bouture ne fait pas de soutien scolaire. En fait, notre accompagnement, il est vraiment dans un lieu d'écoute qui permette aux jeunes de redevenir sujet de son histoire scolaire en nous racontant et en posant des mots dessus. Et puis ça, après, c'est un accompagnement au long cours pour rendre les choses possibles pour lui. Mais on ne fait pas d'aide au devoir. Quoi.
Nous, d'accord, on est pas, est-ce que vous pouvez orienter à ce moment-là?
On est de relais, effectivement. Et du coup, c'est super d'être venu là aujourd'hui parce que ça nous a permis vraiment d'avoir physiquement énormément d'associations avec lesquelles on travaille d'habitude. Voilà, et qui sont effectivement, il y a la Fève, il y a les trois amis. On est en lien aussi avec les missions locales, les CIO, avec beaucoup d'associations.
Effectivement, de toute façon, il y a toujours ce réseau associatif ou de certaines structures qui dépendent de pouvoirs publics. Il y a quand même des gens qui agissent dans tous les domaines. Donc, il y a de quoi pouvoir trouver la bonne porte, pousser la bonne porte pour obtenir de l'aide. Justement, cet accompagnement de la jeunesse, que ce soit les plus jeunes jusqu'au niveau étudiant, par le monde associatif. Est-ce que vous partagez ce que je viens de dire, qu'il y a suffisamment de structures qui accompagnent, qu'il manque encore des choses?
Non, mais des fois, il y en a trop. Je veux dire, on parle un peu du millefeuille, quoi. Et nous, les jeunes qu'on reçoit, et des fois, il y a des petites phrases qu'on aime bien, c'est ils ne sont pas suivis, ils sont poursuivis, quoi. Je veux dire, il y a des jeunes qu'on reçoit, ils ont deux éducs, voire trois, plus un conseiller de mission locale, plus... Donc c'est comment on œuvre. Alors chacun a ses compétences, chacun a sa charge professionnelle, je veux dire son cahier des charges professionnelles qui est un peu différent. Je pense qu'on a quand même des objectifs un peu parfois communs. Donc c'est comment on peut travailler un peu plus ensemble autour de ça, quoi.
Clément, est-ce que le public étudiant est un public un petit peu oublié? Et donc ma question, c'est celle que je posais à Laura, est-ce qu'il y a suffisamment d'accompagnement pour les étudiants ou il manque des choses?
Alors suffisamment d'accompagnement, j'ai quitté la sphère grenobloise et passé au niveau national. Nous sommes quatre associations du même type en France.
Ce qui n'est pas beaucoup.
Une à Paris-Saint-Denis, à Lyon, à Marseille et nous. Donc ça, vous voyez que c'est quand même, ça n'existe pas, le soutien universitaire en tant que tel. Donc il y a un réel manque. Nous avons préparé des documents pour un dossier « Comment créer un site, un centre identique ailleurs, dans une autre ville universitaire ?» On a quelques frémissements dans certaines villes universitaires où quelques personnes veulent démarrer, mais c'est long à faire et c'est compliqué. Le deuxième volet, pour moi, l'autre élément important, c'est là où on a une difficulté principale, c'est la difficulté d'information. Faire connaître notre association, ce que l'on propose. Et nous nous apercevons que beaucoup des étudiants qui viennent le viennent par bouche à oreille d'autres étudiants. Alors on a fait des campagnes d'affichage, des trucs dans les restos U, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Et je suis très heureux que vous ayez invité à cette radio pour pouvoir dire cela existe, à la fois pour les étudiants qui seraient qui auraient une demande vis-à-vis de nous, mais aussi pour d'éventuelles personnes qui disent « Mais moi, aider à progresser en français, pas de problème. » Ou bien « Non, moi, professionnellement, j'ai travaillé dans le commerce, je connais tout ça parfaitement. Si jamais vous avez quelqu'un qui a fait une étude de commerce et qui, je suis prêt à passer 2 heures par semaine. » venez voir, pas de problème. On sera très très heureux de vous accueillir.
Ben justement, alors s'il y a des personnes qui ont envie de venir renforcer vos rangs, comment ils peuvent avoir ces informations? Est-ce que vous avez des sites web avec lesquels les personnes peuvent vous envoyer un mail, échanger? Ou est-ce qu'il y a des petites annonces sur vos sites qui disent voilà, on manque de personnes pour tel ou tel type d'action?
Et effectivement, je dirais comme toute association qui essaye d'être dans le bout du jour, on a un site web. Je dirais pas que c'est une merveille flashy, etc. Mais il y a tout ce genre, il y a toutes ces informations là. Et le nom du site est très simple. Comme on a dit, coup de pouce Grenoble. Donc CPEG38. Et puis Google se débrouillera et vous arrivez dessus sans problème.
D'accord. Et pour la bouture?
Mais pour la bouture, on a un site internet, effectivement, labouture.education. Point éducation, tout à fait. Alors qui est en cours de renouvellement.
Laura, administratrice, qui ne connaît pas par cœur.
Avant, c'était labouture.org. Non, ça, c'est l'adresse mail. Mais du coup, pour nous rencontrer, nous, on va mettre en place, parce que pour venir à la bouture, c'est sur rendez-vous. Mais là, on a vraiment envie d'être dans quelque chose d'un peu plus ouvert. Donc, on va mettre en place des permanentes d'accueil sans rendez-vous pour des individus qui auraient envie de connaître un peu plus l'association, etc. Mais devenir bénévole à la bouture, c'est pas une tâche très facile parce qu'en fait, c'est un projet, j'allais dire, qui est tellement spécifique. Qu'il faut aussi s'alimenter. Enfin, il y a d'abord un besoin de formation et de connaissances sur qu'est-ce que porte la bouture en termes d'analyse sur le décrochage scolaire, sur le raccrochage. Mais on y arrive. On a des individus effectivement qui viennent voir, qui viennent un peu en immersion, et puis en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, chemin faisant, ils s'y engagent.
Pour terminer, juste un mot sur les perturbations éventuelles pour vos associations respectives que l'épidémie Covid a pu avoir, puisqu'on sait qu'il y a eu des fermetures des périodes au niveau des établissements scolaires, que les étudiants ont aussi beaucoup souffert, même s'il y avait les cours par visioconférence, etc. On sait que beaucoup d'étudiants ont eu du mal à gérer ces moments. Est-ce que, du point de vue de vos associations, ça a beaucoup perturbé le travail? Il y a eu moins de demandes, ou même peut-être tout simplement vous, vos bénévoles, qui ne pouvaient plus participer?
Alors, nous, ça a été en deux temps, j'allais dire. Tous les jeunes qu'on reçoit, c'est des jeunes qui avaient déjà un peu des signes de décrochage. Alors, il faudrait définir signe de décrochage, on va dire peut-être un peu d'absentéisme, une non-adhésion à l'école parce qu'elle fait pas sens, etc. Et la période Covid a cristallisé tout ça et les a conduits à un décrochage avéré. Ce que ça nous a permis de mettre au jour pour nous, c'est que effectivement les cours à distance ne permettent pas de faire de travailler la question de c'est quoi apprendre. Enfin, nous on pense fortement que apprendre c'est apprendre ensemble, et apprendre ensemble à distance c'est quand même un peu compliqué, et du coup c'est un peu semblant parfois, donc ça a accéléré le décrochage de certains jeunes en fait nous on a des demandes de plus en plus importantes en fait, de jeunes qui décrochent même de plus en plus tôt. On a eu très peu de jeunes au mois de mai-juin qui sont venus, comme s'il y avait une sorte de banalisation du décrochage, parce que c'était normal, c'est dans l'air du temps, ça fait 2 ans qu'ils ne vont plus à l'école, donc il n'y a pas d'inquiétude forcément. Et puis là, on a un retour, c'est-à-dire qu'on a réouvert début août cette année, et depuis début août, on enchaîne 3-4 jeunes, enfin on enchaîne, non, on ne fait pas la chaîne, mais je veux dire, on a à peu près 3 rendez-vous par jour, quoi.
Et donc, du point de vue du milieu étudiant, Clément?
Alors, mars de l'année dernière, le centre ferme en termes de locaux, mais on décide de continuer à travailler avec les moyens modernes de télécommunication. On a réussi à former une 60aine de bénévoles, et l'âge moyen des bénévoles, c'est quand même plutôt dans les 65-70. 60aine de bénévoles à l'utilisation de Zoom. Et on a fait ça à distance. Donc vous imaginez comment ça a pu se faire. Individuellement, d'abord les contacter pour qu'il y ait les premiers, savoir simplement se connecter, puis ensuite connaître les fonctions des formations en groupe beaucoup plus large, en conférence sur les fonctionnalités. Et je dirais que l'activité pendant le Covid a été à peu près à 80% de notre activité normale.
Donc ça veut dire que, tant bien que mal, vaille que vaille, vous avez réussi quand même à pallier un petit peu. Est-ce que malgré tout, cette période depuis un an et demi, est-ce que ça a pu, mettre par terre certaines actions ou certains suivis? Est-ce qu'il a fallu faut aujourd'hui ou peut-être prochainement reprendre à zéro avec certains étudiants ou certains jeunes?
Il y a des choses qu'on a complètement arrêtées, qu'on n'a pas pu prendre. C'est-à-dire qu'en plus de cet aspect, de cette fonction, je dirais en binôme, uniquement pour l'aspect universitaire, il y a chaque jour à 4h30 un thé, une pause d'une demi-heure, où il y a tout le monde, étudiants et bénévoles, qui sont là. Donc c'est un échange relativement libre, découverte d'une autre culture, d'une autre manière de vivre, etc. Et je crois qu'on contribue à la paix mondiale dans cette opération-là, de façon colibri, on pourrait dire, mais c'est une réalité. Le deuxième élément, on a plusieurs fois par an des manifestations globales, faites de coups de pouce, fêtes de fin d'année, etc., où là, vous avez sur le buffet des plats de la, je dirais, du monde entier, apportés par les étudiants, des rencontres comme ça. Et ça, on a dû mettre en veilleuse le temps du Covid, et on espère pouvoir redémarrer une manifestation de ce type en décembre cette année.
Et nous, on a dû effectivement arrêter ou mettre en stand-by une action, par exemple, qui sont les cafés boutures. Donc les cafés boutures, c'est ouvert au monde, j'allais dire citoyen, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas auprès des gens qui ont une casquette professionnelle, mais ils y viennent en tant que citoyens pour essayer de mettre un petit peu l'école dans le débat public. Donc ces cafés boutures, on n'en a fait qu'un avec la fermeture et le Covid. Voilà, on a mis en stand-by, on va les redémarrer là au mois d'octobre. Et puis du coup, on a mobilisé un petit peu nos forces pour essayer d'être beaucoup plus dans de l'écriture et des transmissions aussi de production de ressources par écrit. Par exemple, on a été missionné dans le cadre de l'obligation de formation des 16-18. Qui est une nouvelle loi là, qui est sortie. Hein. Maintenant, école obligatoire à partir de 3 ans et obligation de formation jusqu'à 18 ans. On a été missionné pour pouvoir organiser des séminaires de co-formation des différents acteurs qui sont autour des jeunes en 16-18. Avec les contraintes sanitaires, on n'a pas pu le faire. Du coup, on est passé par des entretiens téléphoniques, des rencontres individuelles et la production de bulletins de liaison. Des bulletins de liaison, on en a produit à peu près 4. Ils sont disponibles sur notre site internet. On a fait aussi, on travaille en partenariat avec un documentariste dès le début, d'ailleurs, qui a aidé à la création de l'association La Bouture parce que son fils était décrocheur. Donc en 96, c'est Jean-Paul Pénard qui a fait énormément de documentaires sur La Bouture et sur le CLEPT. Et du coup, là, on a créé une web-série de témoignages, de paroles d'élèves, de parents, etc. Et voilà, on est parti un peu, on s'est renouvelé là-dessus pour face au contexte sanitaire.
Très bien, eh bien, on va clôturer notre plateau, sauf si vous avez un dernier mot à dire, un message particulier à faire passer, rappeler peut-être tout simplement où est-ce qu'on peut avoir des informations, donc site web, il suffit de taper La Bouture, ou bien coup de pouce Grenoble.
CPEG38.org.
Voilà, mais si on tape coup de pouce Grenoble, on arrive quand même sur un lien.
Il faut mieux mettre le mot étudiant aussi, coup de pouce étudiant.
Coup de pouce étudiant. Ouais. Ok. Et si on veut venir vous voir directement, avec le masque, bien sûr.
Alors effectivement, avec le masque, le mieux, c'est de prendre rendez-vous à l'accueil, un coup de fil, le téléphone est sur le site.
Très bien.
Et nous, un coup de fil, un mail, et puis bientôt, des permanences d'accueil sans rendez-vous.
Vous trouvez où? Alors, à Grenoble même?
Nous, on est au secours Jean Jaurès. La Bouture, c'est au secours Jean Jaurès, voilà.
Et votre siège, votre local?
Notre local est place Saint-Bruno.
Oui, vous l'avez dit tout à l'heure.
Depuis la place à droite, c'est l'immeuble qui est à droite de l'église Saint-Bruno.
On n'est pas très loin.
On est voisins.
On est voisins.
Mais voilà, vous avez bien compris, Clément, vous avez dit on appelle d'abord pour prendre rendez-vous. Sinon, ils vont être débordés si vous vous présentez tous au local. Merci à tous les deux. Bonne continuation dans vos missions, vos actions importantes. On aura peut-être l'occasion de se recroiser sur l'antenne de News FM pour évoquer la question du décrochage scolaire ou des problèmes vécus par les étudiants étrangers ou français. Donc, bonne route à la bouture et à coup de pouce étudiants, Grenoble. Merci.
Merci beaucoup.
Un grand merci.
On va repartir en musique, hein, comme d'habitude, entre deux plateaux, mais ça sera pas un plateau invité qui va conclure cette journée sur News FM, journée spéciale. Ça sera plutôt une petite clôture avec un bilan. Normalement, on devrait avoir Emmanuel Frossard, la responsable du service relations avec la vie associative de Grenoble et responsable de la maison des habitants, la maison des associations de Grenoble. Voilà, elle devrait être avec nous pour faire un petit bilan de cette journée. Donc, on vous donne rendez-vous vers 18h. À tout à l'heure.